Bon, bah, tout d'abord, je vous remercie d'être venu pour échanger sur cette deuxième partie, plus spécifiquement sur la partie eh bien, qui va nous intéresser aujourd'hui, le patrimoine. Alors, au sens large, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on pourrait dire le tourisme, voilà, avec tous les sites qui peuvent être proposés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant, donc on aura pour discuter avec nous Céline Françon, qui est médiatrice culturelle et chargée de l'accessibilité au musée départemental de la céramique de Lezoux. Il existe depuis combien de temps, ce musée ?
2007. On fête nos 10 ans mardi prochain.
Ok, bon, on est quasiment à l'anniversaire. Il y a aussi Claire Mock, qui est chargée de l'accessibilité au public et handicap à Vulcania.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Vulcania, c'est plus âgé. Ça va date de...
Nous, ça va être nos 15 ans.
Ah ouais, d'accord.
Mais c'est aussi mais c'est pas loin, c'est une même... année anniversaire.
Ah. Ok, ah oui, d'accord. Si on considère que les années divisées par 5, c'est des années anniversaires. Ok, ah, désolé.
C'est nos 15 ans.
Et puis donc Olivier Paradis qui a pris la parole tout à l'heure en tant que professeur spécialisé au CRDV, mais qui porte une double casquette puisqu'aujourd'hui il est là avec nous, notamment parce qu'il est président de l'association Braille et Culture. C'est quoi Braille et Culture ?
Oula. Braille et Culture, c'est une entreprise qui fonctionne sous couvert associatif. Une entreprise qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, Braille et Culture, c'est 10 salariés, 7 équivalents temps plein. C'est près de 200 chantiers sur toute la place. C'est une association qui est connue et reconnue, hein, qui a travaillé sur de très nombreux sites des Beaux-de-Provence au château de Versailles, on peut, enfin à tout un tas de lieux, je peux tous les citer. Et Braille et Culture fait à la fois des adaptations de visites pour le public déficient visuel, et travaille en collaboration avec d'autres associations, notamment l'URAPEDA, pour proposer des objets de médiation, des outils de médiation, pardon, qui concernent aussi la déficience auditive. Et là, on est en train de s'ouvrir également avec l'ADAPI sur la déficience mentale. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un conservateur de musée, un gestionnaire de site, quand on lui propose une adaptation pour l'accueil du public handicapé, demande maintenant à avoir un maximum de données et investir pour plusieurs handicaps en même temps, et ce qui permet d'obtenir un label aussi, le fameux label tourisme handicap, et parfois d'avoir même des premiers prix. Puisque là je fais une allusion au musée départemental de la céramique, qui a eu le premier prix national patrimoine pour tous en
2016.
Alors vous, dans l'Assemblée aussi, vous êtes là parce qu'une table ronde, alors là c'est un peu raté parce que la forme de la salle, ça fait pas que c'est une table ronde, c'est une table perpendiculaire et puis qui fait face à face. Mais l'idée, c'est que dans l'esprit, à tout moment, si vous avez envie d'interagir, faut pas hésiter, quoi, d'accord ? L'idée, c'est que ce soit table ronde au sens vrai du terme. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de faire les tours de parole, ce sera mon rôle. Je vais commencer par prendre la parole et questionner, mais au fil de la conversation, l'idéal, c'est que moi, j'ai plus besoin de poser de questions et puis que ça roule, quoi. Alors, pour commencer, pour nos invités, je voulais poser une première question qui est juste une amorce d'introduction. Donc, c'est plus donner l'idée générale. Hein. On n'a pas besoin d'en faire un roman, mais c'est quoi, selon vous, le plus gros défi d'adaptation que vous puissiez imaginer pour rendre accessible une exposition ou un site touristique ? C'est une question piège, d'accord, mais c'est juste pour lancer la discussion. Claire, peut-être ?
Plus gros défi, alors spécifiquement sur chacune de nos
pourquoi
structures.
Pourquoi, par exemple, là ? Ouais.
Moi, je dirais que sur le site de Vulcania, je ne sais pas si les personnes présentes ici connaissent, sont déjà visitées, le plus gros défi, c'était l'architecture du site, qui est très compliqué, qui est un site en grande partie enterré, hein, trois quarts souterrain, avec plusieurs niveaux, plusieurs bâtiments, des ascenseurs qui ne desservent pas forcément tous les niveaux. Donc c'était très très compliqué, et ce qui nous empêche d'ailleurs aujourd'hui d'avoir un cheminement podotactile qui indique effectivement un sens de visite, puisque pour le coup on est sur un site qui se visite totalement librement, où les gens vont construire leur programme en fonction de leurs envies, en fonction des horaires, des animations qui sont proposées. Donc sur un site comme Vulcania, à mon sens, il est totalement impossible de mettre en place un cheminement podotactile qui en plus est susceptible d'évoluer et de changer chaque année en fonction des nouvelles animations qui peuvent être proposées. Donc on a en partie répondu à la question par le biais d'une maquette tactile du site. pour en tout cas donner déjà cette notion de plusieurs niveaux, plusieurs bâtiments et des choses effectivement imbriquées de manière un petit peu bizarre. Donc ça, c'est plus spécifique effectivement à notre structure.
Donc l'architecture gigantesque et puis la configuration particulière.
La complexité effectivement de l'architecture, oui.
Et au musée de la céramique, alors c'est quoi le plus gros défi auquel vous avez dû faire face? Ou il n'y en a pas en fait?
Si, je pense qu'on est en train de le faire. On est en train de mener une expérimentation avec une œuvre d'art contemporaine qui va être créée, dont le but est de provoquer une émotion artistique chez une personne déficiente visuelle sans avoir à recourir au toucher. Donc en utilisant les modes de perception des personnes aveugles, notamment que les personnes valides n'utilisent pas vraiment. Et puis elle a de faire une œuvre après adaptée au voile.
Et à Braille et Culture ?
Moi je crois que le plus grand défi que l'on a lorsqu'on prépare une visite adaptée pour des personnes handicapées, des personnes déficientes visuelles en particulier, c'est de donner du plaisir et de ne pas faire une visite qui soit un parcours du combattant. On passe des heures à toucher des maquettes en plastique pour savoir où on se trouve, ou des choses comme ça. Une visite, quand on va visiter un musée, on n'est pas là pour comprendre le plan de la salle. On est là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et aller directement aux œuvres, directement. Voilà. Et c'est une problématique. Il faut prendre en compte vraiment les besoins de la personne handicapée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées, mais les idées ne sont pas forcément très bonnes. L'enfer est parlé de bonnes intentions.
Ok, merci. Donc ça donne un petit peu une idée des points qu'on va aborder pendant cette discussion. Je vous propose, puisqu'on pourrait s'éparpiller et passer des heures à tirer des tiroirs à l'air fermé et puis à acheminer sans vraiment qu'il y ait un fil conducteur, de séparer la discussion en trois parties. Je vous propose celle-là. La première, c'est l'accessibilité des lieux, parce que c'est un point important. En fait, on parle de lieux où le public est invité à déambuler, donc il y a cette problématique d'accès aux lieux. Puis dans un deuxième temps, on prendra évidemment du temps, plus c'est certain, pour parler de l'accessibilité des contenus, parce que ça c'est un défi qui est spécifique à la variété des types de contenus. Donc là on prendra du temps sur ces questions-là. Et puis en dernière partie, j'aimerais bien parler avec vous de la diversité du public, parce qu'on a commencé à l'aborder, et si chacun des sites est motivé à avoir un accès, enfin à avoir un label qui représente sa capacité à accueillir tous les types de handicaps, c'est à la fois parce qu'il y a un label associé, mais c'est parce que c'est un vrai défi. Et je pense qu'en tant que personne qui propose un lieu culturel, quand il y a un défi, ça fait peur, mais ça doit être motivant aussi. Donc je propose qu'on parle de ça en dernier. Voilà, ça vous convient comme fil conducteur ?
Ça va.
Ok. Une première question.
Juste une question qui est un peu en marge, mais justement, on a abordé la question du label pour les handicaps. Est-ce que dans le domaine du patrimoine, dans les sites, on peut tout à fait imaginer qu'une adaptation soit réalisée sans ce label? Enfin, dire, le label, il n'est pas
indispensable. La situation idéale, c'est qu'il n'y ait pas de label et que les choses soient adaptées dès le départ.
Je suis d'accord avec vous.
Le label est fait pour susciter justement,
encourager.
Et nous, il y a certaines personnes aussi qui nous appellent pour être sûres que le musée est accessible, parce que il y a des structures qui se disent accessibles et qu'on ne va pas vraiment penser à ce là, finalement, ils ne sont pas forcément. Et en fait, ce label, il sert aussi, je pense, pour les personnes qui sont concernées à être vraiment sûres qu'elles peuvent y aller sans problème.
Et finalement, c'est vraiment une garantie.
Ça devrait l'être. Donc ça a démarré un petit peu rapidement. On ne va pas faire procéder l'appel. Je fais partie, pendant la CFPSA, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles, je fais partie de je suis délégué auprès de l'association de tourisme handicap qui fait de gros efforts et il y a vraiment une prise en compte au niveau national. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu des choses un peu plus curieuses. Enfin, bref, pas ça. Normalement, effectivement, le label doit garantir cette sécurité de l'accueil. Mais il y a des divergences philosophiques, on va dire, sur l'adaptation en elle-même. Et le label a lourdement insisté pendant pas mal d'années, on y revient un petit peu aujourd'hui, sur le fait de la visite autonome. Est-ce que vous avez beaucoup de visites autonomes?
Bah non, mais les gens ont envie d'être autonomes, ils ont envie d'être ensemble.
Voilà.
Merci.
Donc, même problématique.
Ça c'est pas le but.
Voilà. Alors, ce qui fait que pour faire une visite autonome, par exemple, au dernier concours, puisque je siège aussi au prix de côté de concours tous.
Vous êtes partout, en fait, quoi. Non, je déconne.
C'est ce que dit ma femme. Il y avait des musées, par exemple, où ils avaient fait des parcours avec des barrières pour que la personne déficiente visuelle, enfin, vous auriez dit des barrières à vous sur un foirail, quoi, vous ferez, pour, mais je vous jure que c'est ça, c'était le musée de la cloche, pour ne pas le citer, dans l'Hérault. Et d'autres choses comme ça. C'est aberrant. Enfin, je veux dire, je parlais de visite plaisir tout à l'heure. Si on fait une visite où il faut, tous les 50 cm, savoir où les mains, les pas, etc., savoir... Oui, enfin,
après, nous, on a des fois des visiteurs qui ont envie de tester une visite autonome, ils le réclament.
Bon,
c'est quand même pas la majeure partie des gens. Mais c'est non, bien c'est, de donner la possibilité de le faire.
Non, puis chez nous, il n'y a pas de barrière.
Non, mais il y en a qui le veulent, c'est quand même vraiment une minorité.
Oui, c'est une grande fatigue. Si vous prenez tout à l'heure, les deux intervenants ont bien dit que c'était fatigant de vivre avec une déficience visuelle, c'est évident. Et si vous passez votre énergie à savoir comment vous guider, comment vous opérer, vous avez le plaisir de découvrir la céramique, de découvrir autre chose.
Voilà. Et comment avez-vous fait? Comment? Est-ce qu'il y a des solutions alors pour n'avoir que ce plaisir et pas l'inconvénient de, des lieux?
La solution, c'est d'amener le plus de choses dans, j'allais dire, au niveau sensoriel, dans les mains des gens, dans les oreilles des gens, voir dans ce qu'on respire, dans ce qu'on ressent, etc., dans nos sentis. Et ça, c'est une démarche qui est pas facile hein, à faire, à mettre en place. Ça passe par des visites, on appelle ça dans l'oreille culture, des visites sensorielles, avec des visites qui sont audio-guidées, qui vous recréent, qui essaient de recréer en tout cas l'ambiance du lieu où vous êtes.
Au début de votre réponse, vous avez employé le mot juste qui est amener. Donc, soit on emmène les objets en un lieu,
oui,
regroupé, et là, par exemple, les déficients visuels peuvent toucher, exact, sentir, goûter, enfin, je ne sais pas.
Oui.
Soit on emmène les déficients auprès de ces objets. Voilà. La deuxième solution, manifestement, est plus compliquée. Et hélas, il y a certains objets dans certains endroits, on n'est pas prêt de les déplacer.
Non, on n'est pas prêt de les déplacer, on n'est pas prêt de les toucher. Mais aujourd'hui, avec différentes techniques, notamment la pression 3D, on peut faire des reproductions, on peut faire des tas de choses qui sont possibles. Et c'est un choix, par exemple, au Louvre, ils ont fait le choix de salles tactiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans le musée du Louvre, dans la galerie, machin, toucher une... Non, il y a une salle spéciale où il y a des moulages, où il y a des reproductions. Voilà. C'est... Ça se discute. Au Louvre, les conservateurs du Louvre, les peintres français et italiens ne sont pas enclins à faire de la place pour les adaptations. Enfin,
pour organiser certaines sorties de ce style, à la demande de personnes qui me disaient on veut toucher.
Et
on s'aperçoit qu'on
est sur la zone 10. Comme vous voulez, ça me.
C'est très difficile aussi. Enfin,
il y a une réticence parfois à vouloir toucher
ça, et puis il faut que la personne touche, c'est bien, mais il faut aussi une personne qui commence.
Voilà,
il va falloir qu'elle commence, voilà. 10 visiteurs, 10 fois. C'est long,
ça prend du temps. C'est pour ça que les visites, bon, on est en binôme en général, la personne déficiente visuelle est accompagnée de quelqu'un qui voit, ou qui voit mieux qu'elle en tout cas. Et on essaie de promouvoir aujourd'hui des carnets de visite, des documents de visite, où vous avez un dessin en relief, mais en transparent, et dessous le même dessin en couleur, ce qui fait que la personne qui voit peut aider l'aveugle qui vit avec braille. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai pas, mais bon. Vraiment, il faut aller dans ce sens-là pour solliciter des visites agréables, des visites socialement, quoi, avec des personnes différentes, etc.
Nous, des fois, on a quand même eu des personnes qui nous ont dit toucher, c'est un geste finalement assez intime,
ouais,
et elles n'ont pas envie d'être vues en train de toucher.
Ouais. Et c'est éducation.
C'est arrivé plusieurs fois, ça. Donc, le toucher, et puis au bout d'un moment, elles en ont marre aussi de toucher. Il y a d'autres modes de perception que le toucher. Et puis elles nous ont dit, et puis on ne sait pas si c'est propre, mais on ne sait pas si
ça, c'est vrai. C'est vrai.
Et puis, bon voilà, c'est pas forcément une solution non plus sur laquelle il faut faut compter toujours.
C'est important, c'est une des solutions.
Juste pour garder la structure et puis qu'on ait le temps d'aborder tous les sujets, je vous propose qu'on commence par aborder la question de l'accessibilité au lieu, puis ensuite on prendra le temps de parler de l'accessibilité des contenus, mais on a déjà commencé à aborder les deux thèmes là. J'ai envie de poser une question aux personnes qui dans cette salle se considèrent comme déficients visuels, et puis s'ils ont envie de répondre, quel est votre meilleur souvenir d'accessibilité dans un lieu touristique, quand on parle de l'accessibilité des lieux?
Moi, on a visité Valentin Harvey, on fait partie de l'association Valentin Harvey, et on était le premier groupe à venir visiter la céramique. Vous venez d'ouvrir, quoi. C'était juste, je crois qu'on a essuyé les plates, si je peux dire. On a essuyé, enfin bon, la visite sonore. Moi, je la trouve très bien parce que moi, je suis quand même assez indépendante. Donc, à un moment, j'ai suivi le groupe, et puis à un moment, j'ai filé dans l'autre sens. Mais ça s'adaptait très bien, quoi. Dès qu'on s'approche d'un emplacement, enfin de, voilà, ouais. Ça change, le truc change. Parce que, ah non, mais il y a des musées où c'est pas comme ça. Il faut suivre, et si on prend le 1, le 2, le 3, et puis moi je faisais le 1, le 4, le 5, et je revenais au 3, parce que bon, je suis comme ça, et j'aime bien être suivre ma propre idée, et ben ça s'adaptait tout de suite. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très bien.
Oui, ouais. En fait, c'est un visiteur papillon, on appelle ça, oui. Les gens qui papillonnent.
Voilà, je papillonne.
Dans l'ordre, il y en a beaucoup.
Ah oui, on peut parler des différents profils. Alors, il y a les visiteurs papillons, il y a les...
Bah, il y a ceux qui font tout bien dans l'ordre, et puis il y a ceux qui...
Ils s'appellent comment, ceux-là? Ils portent tous un nom, hein.
Ils portent tous un nom, je ne me souviens pas.
Quelqu'un sait le nom dans la salle,
là? Oui, c'est ça, c'était bien.
Et en fait, c'est un système infrarouge.
Comment?
Mais qui, au bout de 10 ans d'existence, disons que maintenant, il y a quand même des nouvelles technologies qui nous permettent de faire mieux. Et parce que le système infrarouge a une limite, c'est que quand on est plusieurs, il ne va pas se déclencher. Il faut être seul. Alors que maintenant, si on est trois sur un même point, il y a d'autres systèmes qui permettent d'avoir le déclenchement de la séquence.
Il va falloir qu'on vienne.
Il faut qu'on...
C'est aussi le problème de la vie individuelle et de la vie en groupe.
Oui. Des fois, le groupe reste tellement longtemps devant. Il y a les non-voyants et les malvoyants. Moi, je suis malvoyante. Donc, je vais un peu plus vite que les autres. Je m'ennuie un petit peu. Je file plus loin. C'est ça.
Alors là, c'était un exemple de bon souvenir. Est-ce qu'il y en a d'autres de lieux qui vous semblent être satisfaisants pour les gens qui sont ici et qui se considèrent comme déficients visuels? Où il n'y a pas d'exemple, en fait, tout est nul. Ok, bon, du coup, je vous propose, au fil de la discussion, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur des exemples concrets comme ça, et puis d'en aborder. La première question, quand on parle d'accessibilité des lieux, c'est clairement les aspects légaux et puis les normes existantes. Alors, il y a la loi de 2005 qui a été déclinée sous forme d'une charte. Est-ce que la charte, elle date de 2007 ? Est-ce que c'est un outil que vous qui proposez vos lieux, sur lesquels vous vous appuyez, est-ce que ça correspond à des... est-ce que vous limitez vos adaptations du lieu à suivre les règles imposées par les normes, ou est-ce que vous prenez des initiatives, des libertés qui vous semblent plus adaptées par rapport à ce que vous proposez?
Je dirais que les libertés se prennent plus sur l'adaptation du contenu.
Mais pas de...
L'adaptation des lieux, nous, on se base quand même beaucoup sur la réglementation. C'est elle qui va nous guider. Après, on essaye quand même toujours d'adapter au mieux. Dès qu'il y a une nouveauté, un nouveau cheminement, c'est vrai qu'on va intégrer ces problématiques dans la réalisation. Mais moi, en tout cas, mon outil de base sur l'accessibilité des lieux, c'est la réglementation.
C'est aussi ce que vous partagez à l'ESO?
Oui, disons que la loi, c'est la base. Après, c'est du bon sens. Et on voit au fur et à mesure de la prise en compte de ce que nous disent les visiteurs, on va aller à chaque fois essayer d'aller plus loin. Mais la loi est pas suffisante de toute façon.
Est-ce que parmi les gens qui sont dans la salle, il y en a qui ont connaissance de cette loi, ou en fait, est-ce que ça vous parle pas du tout? On dit deux, trois choses dessus ou pas? Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est-ce qui veut raconter un peu succinctement par exemple, pour venir jusqu'ici. Est-ce que ce bâtiment, comment est-ce qu'on adapterait ce bâtiment dont on sait pertinemment qu'il n'est pas du tout aux normes, parce que c'est l'université, bonjour, bienvenue chez nous. Comment est-ce qu'on adapte un bâtiment comme celui-là? Simplement, le cheminement qu'on a fait depuis le début. Vous êtes entré, j'imagine, par le parvis, puis vous avez gravi les quelques marches au bout du hall pour...
Il y a une rampe.
Ah, il y a une rampe. Alors, vous avez pris la rampe sur le côté. Oui. Comment vous l'avez trouvée?
Parce que je venais ici pour les concerts de l'Orchestre ouvert.
Je savais qu'il y avait une rampe. Comment vous l'avez jugé ou comment?
Non, comment vous l'avez identifié, merci. Bonne remarque.
Parce que Marie-Françoise la connaissait.
Voilà, c'est-à-dire qu'il savait, alors je lui ai dit, j'étais tout simplé par la rampe.
Et après, tout dépend de la déficience, parce qu'une fois dans le hall, on a vu qu'il y avait marqué
on est allé demander.
Et s'il prenait quelqu'un de beaucoup plus déficient, j'imagine que c'est beaucoup plus délicat, et il doit demander aux étudiants à l'entrée. Je ne sais pas comment faire autrement. Hein.
Alors, dans la norme, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement liées à la déficience visuelle, parce que par exemple, il y a des questions de place devant et après les portes, il y a des degrés d'inclinaison, des pans inclinés. Il y a
la courante aussi à deux niveaux pour les personnes de petite taille.
Il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup de choses. Vous avez les marches qui doivent être aussi contrastées, vous avez plein de choses.
Vous connaissez un lieu qui est correctement adapté, qui suit correctement exactement les.
Ouais. Je pense qu'on n'est pas trop mal.
J'attendais ce genre de réponse, c'est pour ça que.
Honnêtement.
Non, c'est pas si mal. Les escaliers sont indiqués, les départs d'escaliers sont indiqués. Toutes les situations qui pourraient nous mettre en danger sont signalées. L'accès à un bâtiment, la difficulté, c'est de trouver la porte d'entrée. Dans tous les cas, moi je vois pas du tout. Donc, dans tous les cas, ma difficulté, c'est de trouver l'entrée de bâtiment. En général, j'y arrive à peu près. Mais la porte d'entrée, c'est le point. C'est l'approche finale la plus délicate. Et moi, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure dans la première partie. J'ai sollicité quelqu'un pour m'aider à rapprocher. Il y a un petit peu de monde, c'était très bien. Et effectivement, par facilité, je marchais à côté, le chien a dû repérer que c'était voilà, la rampe d'accès. C'est une facilité par rapport aux marches. Pour lui, c'est quand même beaucoup moins difficile et ça n'arrivait pas.
Donc l'accessibilité depuis l'espace public jusqu'à l'accueil?
Alors, jusqu'à l'accueil, pas tout à fait, parce que j'ai abandonné les personnes qui m'ont aidé jusqu'à l'entrée et je les ai remerciées. Et saluer, ils sont repartis. Et là, j'ai avancé un peu et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a encore un espace assez grand, parce que j'identifiais assez mal ce lieu pour lequel je rentrais peut-être pour la première fois. Et en fait, spontanément, une personne est venue vers moi. Et c'est ce que je trouve assez génial, c'est qu'on est aussi dans un rapport humain qui est important, et l'accessibilité c'est ça avant tout, c'est pouvoir accéder à un endroit, soit parce qu'il y a une aide, soit des techniques matérielles, mais avant tout humaine. Je vais pas à un endroit où il n'y a absolument personne, je suis pas dans les bois au milieu des ours. Donc je vis dans une société avec des gens qui ont encore certes beaucoup à apprendre sur notre handicap, mais voilà, je suis toujours heureuse de voir que il y a une spontanéité. Et puis il y a eu deux étudiants qui étaient aussi chargés d'accueil ici, qui tout de suite arrivaient en même temps. Voilà, c'était très bien.
C'est d'autant plus agréable, je dirais entre guillemets facile, que c'est préparé. S'il y avait des étudiants qui étaient là, qui attendaient,
oui,
c'est
oui.
Plus facile.
Mais je pense que ça, c'est aussi. C'est question d'accueil. Et si on veut recevoir des gens, voilà, quand vous invitez du monde à la maison, vous êtes accueillant.
Mais je sais que c'est un point sur lequel on va beaucoup insister dans le cadre de la formation de notre personnel, puisque c'est vrai que c'est une des exigences de la marque Tourisme et Handicap, l'obligation de former son personnel, ou du moins de le sensibiliser. Et c'est vrai que de se diriger spontanément vers les personnes, on va beaucoup insister dessus. Après, voilà, j'aime bien votre témoignage parce que ça me conforte dans cette idée. Et je me dis que peut-être certaines personnes n'ont pas forcément envie qu'on leur saute dessus, entre guillemets, pour essayer d'anticiper ou en tout cas proposer son aide. Ça, c'est vrai que j'insiste aussi là-dessus en formation, c'est on propose son aide et on ne l'impose pas.
On se présente, on propose. Et puis... C'est vrai que c'est dans des choses. La prise de contact avec les personnes déficientes visuelles, c'est quelque chose qui est pas toujours évident, parce que je pense que c'est la méconnaissance. Et puis il y a beaucoup de choses qui entourent la déficience visuelle. Hein. C'est quand même. Voilà, il y a quand même des questions, ça peut faire peur, il y a de la croyance, il y a plein de choses. Moi, j'ai entendu dire des tas de choses, c'est complexe. Donc, c'est pas de prime abord la chose la plus simple à faire, aller vers une personne qui voit pas ou qui voit mal. Et en fait, il y a des tas de personnes qui arrivent très bien, et pour des tas de raisons. Et puis, on passe le cap une fois, on fait le pas, et je pense que c'est des choses qui deviennent assez naturelles. Je conviens aussi qu'il peut m'arriver, si on vient vers moi et je peux être dans mes pensées, je peux être surprise, je peux avoir un mouvement de surprise qui peut être pris ou mal interprété comme quelque chose de un rejet, un refus, ou et dans ce cas, c'est pas une maladresse, à moi aussi de faire savoir et de faire comprendre. Enfin, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous aussi, dans notre prise de contact.
Enfin, ça, c'est au-delà de la prise de contact, c'est une vraie question. Quelle est la place des déficients visuels dans la construction d'un site adapté ? Alors justement, je profite de la transition pour vous poser la question. Est-ce que dans l'adaptation que vous avez fait de vos différents sites, vous avez impliqué des déficients visuels dans cette construction, ou alors vous avez plutôt sollicité des spécialistes ? C'est quoi les avantages des deux approches ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes formé en tant que spécialiste ?
Moi, j'étais pas formée parce que quand on a commencé à s'intéresser à ça en 2003, ça existait pas ou peu des formations. Et en fait, on a demandé à des gens concernés de nous aider parce qu'on ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, on a travaillé avec des personnes déficientes visuelles qui ont testé beaucoup de choses, mais aussi avec des orthoptistes, des instructeurs de locomotion, voilà, tout le monde qui chemine autour des personnes aveugles. Pour tout tester et connaître vraiment ce dont ils avaient besoin.
Est-ce que vous continuez à le faire ?
Non, parce qu'on ne met pas en place des nouveautés. Okay. Par contre, on est très attentif quand on a des groupes, notamment qui viennent. On va les voir après et on leur demande ce qu'on pourrait améliorer, etc. Pour toujours essayer de peaufiner des petits détails.
Et à Braille Culture, vous incluez dans vos réflexions des déficients visuels ?
Systématiquement. Bon, déjà, on a 3 personnes handicapées dans le personnel. Et systématiquement, toutes les étapes d'une adaptation sont travaillées avec des personnes déficientes visuelles aveugles ou handicapées. Systématiquement.
Et voilà. Je pense qu'il y a aussi autre chose dont il faut parler. Et ce que fait très bien Braille Culture, c'est l'anticipation et la sensibilisation. Puisque Braille Culture organise des sensibilisations auprès des enfants.
Dans le cadre interassociatif. Hein,
oui, mais ça ne fait rien. Ils en parlent à leurs parents, on espère. Enfin, ils auront, dès tout petit, ils auront su, et ils auront eu quelques idées de ce que c'est que la déficience visuelle. Ça doit rester après. Dans leur vie professionnelle, quelque part, je ne veux pas croire que ça ne laisse pas de traces. Donc, cette sensibilisation et les anticipations. Donc, vous disiez que vous alliez questionner après la visite. Ce que j'ai pu voir, moi, c'est que quand on anticipe la visite et qu'on va voir le lieu avant, avec la personne qui va nous aider à visiter, qu'on lui explique comment nous parler, comment nous guider, ce qui va le mieux, ça se passe toujours très bien. Je pense que c'est surtout en amont qu'on gagnera.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ?
Moi, je voulais savoir par rapport à la problématique que vous avez justement à Vulcania, la complexité de l'architecture du bâtiment. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réglées en amont par l'architecture sur justement l'accès à un site ou la proposition de contenu à l'intérieur de ce site ?
Ah bah, c'est sûr que si vous êtes sur un site où il y a un seul étage, c'est beaucoup plus facile que quand il y a plusieurs niveaux. Donc ça, oui, je veux dire, c'est un bâtiment avec une architecture simple, il sera bien plus facile à rendre accessible qu'un bâtiment où il y a une recherche architecturale, mais plus, je dirais, liée au plaisir de l'architecte et pas forcément. Il est clair qu'à Vulcania, au départ, personne ne s'est posé la question de l'accessibilité, hormis la largeur de porte, hormis des règles de base. Effectivement, au niveau sanitaire, on n'était pas trop mauvais, mais après le reste, personne ne s'est posé de questions. Donc oui, on peut résoudre les choses avec une architecture basique. Par contre, le bâtiment aura moins de cachet.
Dans le cadre de la création d'un musée, c'est pas des attentes de la part des gens qui veulent mettre en place le musée, sur lesquels ils insistent auprès des concepteurs.
Malheureusement, non. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, j'espère que c'est pas forcément le...
C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais.
C'est pas la priorité. C'est pas ce qui vient
nous,
en...
Nous avons été sollicités pour plusieurs musées. Et l'architecte a tellement à faire avec les normes d'accessibilité handicapée physique, j'entends, plus les normes de sécurité, plus tout un tas de choses vraiment obligatoires... La déambulation de la personne déficiente visuelle, je vais dire, sinon on prévoit des chemins, des cheminements, des choses comme ça, mais les contrastes de couleurs, ça passe quand même. C'est dans la finition après qu'on peut intervenir.
Mais du coup, c'est dommage parce que parfois c'est un peu tard. Quoi. Ouais, c'est où c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et juste pour finir sur le sujet, est-ce que c'est quelque chose qu'on anticipe? Vous disiez l'architecte a beaucoup à penser. J'irais même les règles de base. De la loi de 2005 et les normes d'accessibilité ne sont pas toujours respectées. Nous, on a réceptionné un bâtiment en 2014 où il n'y a pas la profondeur réglementaire que l'on doit sous la banque d'accueil qui est abaissée. Et je veux dire, ça n'a pas été vu ni par l'architecte, ni par le bureau de contrôle. Et c'est des choses qui ensuite sont pointées du doigt lors des commissions tourisme et handicap. Donc je veux dire, si même le texte n'est pas respecté, penser le bâtiment en termes d'adaptation à un public en situation de handicap, malheureusement, je crois que c'est pas la priorité ou c'est rarement valorisé à ce jour.
Puis c'est pas un château du Moyen-Âge, hein, parce que là encore, il y a d'autres difficultés.
Oui.
Hein. Dans une autre des salles, il y a une personne qui vient d'Angers. Elle vient du théâtre, mais je l'ai sollicitée parce que à Angers, ils ont un château qui est vraiment intéressant, qui est mis en valeur. Il abrite la tapisserie de l'Apocalypse, pour ceux qui sont sensibilisés à ces questions-là. Voilà. C'est un lieu très impressionnant. Et bah, justement, ils essayent de le rendre accessible parce qu'ils ont une vraie volonté là-bas. Donc là, voilà, il y en a deux exemplaires là de. Ce qu'on va faire passer là, c'est un document qui a été produit par les monuments nationaux. Donc c'est un produit par l'État et c'est un exemple de. Bon là, c'est sur du. On va trouver à la fois des pages qui concernent où se situe Angers sur la carte de la France, puis ensuite dans Angers où se situe le château, puis ensuite le plan du château, puis ensuite etc. Voilà. Donc une diversité de manière d'appréhender l'espace, mais qui sont rendus extrêmement difficiles parce que le lieu, on ne l'a pas conçu pour qu'il soit accessible et c'est un lieu qui date de. Voilà. Donc,
Et puis la lecture d'une tapisserie, j'en arrive.
Oui, c'est vrai.
Pas évident. Et donc, il y a un très beau travail qui a été fait en papier.
Je vous promets que ça coûte
très cher quand même aussi. Puisqu'il faut faire une maquise avant. C'est l'école
estienne.
Et après, du papier gaufré. Et cet ouvrage va être très cher, plusieurs centaines d'euros. Et la lecture est quand même difficile, mais elle est complétée par un CD. C'est parce que tout seul avec votre doigt, si vous fermez les yeux, vous verrez, c'est très compliqué de comprendre. Donc le CD, voilà. Là, on est dans l'excellence, on va dire, de la reproduction en relief, mais en une excellence qui.
J'étais la seule.
Qui coûte cher en argent et en temps, parce que ça c'est le cinquième volume pour les monuments nationaux sur toute la France, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps pour éditer ça, mais en même temps quand on voit la qualité de ce qu'ils produisent,
ce qui est bien, c'est que c'est pas grand public, hein. Ça coûte cher et c'est pas à la portée de tous les doigts.
C'est vrai, on est d'accord. Voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas que les sites qu'on conçoit.
Oui, mais au doigt c'est difficile, pas ça encore ça va, mais après vous allez voir les images de la tapisserie, le relief, les jeux.
Alors justement, on fait le chemin petit à petit vers le contenu, là, en quittant l'espace. Mais pour faire la transition, je voulais vous poser une question. Moi, j'ai déjà été à l'aventure Michelin. Peut-être certains d'entre vous l'ont fait aussi. Et ils ont constaté que c'était un cheminement qui était proposé aux non-voyants, aux déficients visuels, qui n'était pas celui qui était le cheminement proposé par, pour le reste des publics. Et en particulier, il y avait des endroits de l'exposition qui n'étaient pas proposés, etc. Est-ce que vous, quel est votre point de vue sur cette question du cheminement disons exotique ou alors on a parlé un petit peu d'inclusion sans vraiment le dire quand on parlait de classe tout à l'heure, hein, avec l'idée que ben, justement Paul y témoignait du fait qu'il avait été inclus dans l'école et qu'il avait pu bénéficier de choses adaptées mais qu'il avait suivi le même chemin que les autres. Là du coup on constate que parfois la scénographie elle est différente.
Juste pour parler de l'aventure Michelin, je crois bien, c'est à vérifier, hein. Il y a un kit d'audio description.
D'audio guide, oui.
Et je ne sais pas s'il y a deux kits, un pour le site normal et un pour les déficients. Non, toujours est-il.
C'est le même.
Ouais. Alors quand j'y suis allé déficient, on m'a donné le kit. J'ai perdu. Hein.
Alors,
je ne sais pas.
Alors, ouais, bon,
s'il y en a d'autres qui s'expriment avant moi, parce que je vais avoir une idée, je vais avoir une expression tranchée.
Vous, dans vos deux sites, est-ce que c'est un parcours qui est le même, qui est proposé à tous les publics, ou au contraire, vous avez un parcours qui est spécifique ?
Non, alors nous, on n'a pas de parcours spécifique, parce que déjà, on n'a pas de parcours tout court pour tout le monde. Après, ce qu'on a essayé de travailler, c'est d'intégrer dans différents espaces scénographiques, soit une maquette tactile, pour quand on était confronté à des problématiques quand même assez complexes de structure interne de la Terre ou de fonctionnement interne d'un volcan, ça on a effectivement fait le choix de passer par des maquettes tactiles qu'on a équipées de boîtiers audio qui vont donc en fait aider à la description et à la découverte par le toucher dans ce cas-là de ces maquettes-là. On se rend compte que finalement il y a plein de gens qui utilisent ces maquettes, qui sont devant, qui appuient sur le bouton, qui écoutent parce qu'ils n'auraient pas forcément l'explication par ailleurs s'ils ne font pas une visite guidée dans le cadre de leur visite à Vulcania. On a aussi pour certains éléments scénographiques, par exemple on a une grosse météorite métallique qui est située à un endroit du parc. Ça c'est vrai que c'est un objet qui est bien adapté à une découverte par le toucher, donc on va exploiter, c'est vrai que ce que disait Olivier Paradis est vrai, il faut faire une grosse distinction entre une visite individuelle et une visite groupe. Donc c'est vrai que cette météorite, quand on est en groupe, c'est un super outil de découverte. Par contre, quelqu'un qui est tout seul face à la météorite, ça va peut-être pas lui dire grand-chose. Donc là, on a mis en place une plaque braille, même si effectivement on est conscient que tout le monde ne maîtrise pas le braille. Mais en tout cas, on n'a pas deux parcours, non. Le parcours, il est le même. Après, sur des visites adaptées, alors je vous rejoins effectivement sur la préparation en amont de la visite. C'est vrai que moi parfois, ou le plus souvent, les gens me contactent à l'avance, on définit un programme, on dit voilà, on va exploiter plutôt tel et tel module. On a reçu comme ça plusieurs fois l'association Guépard. Et on se rend compte que des animations qu'on n'aurait pas forcément proposées, parce que par exemple on a plusieurs animations à Vulcania dans lesquelles il n'y a pas de bande son, donc il n'y a pas de commentaires, qui sont des animations dynamiques. Donc moi je me dis, quel intérêt pour une personne qui ne voit pas d'être sur un siège dynamique et de ne pas savoir à quoi correspond le mouvement de son siège parce qu'on n'est pas équipé pour le coup en audio description. Et en fait, les gens me le demandent et ils sortent super contents. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Ça rejoint la question d'identifier les besoins de la personne. On se dit, non, il n'y a pas d'intérêt, alors qu'en fait, ces personnes-là vont être très demandeuses et vont ressortir enchantées de ce type d'expérience. Mais en tout cas, non, pas de parcours spécifique.
Au musée, c'est le même parcours aussi. On a une bande blanche au sol qu'on peut repérer avec une canne blanche. Et puis, on s'est aperçu aussi que ce cheminement, qui est le même pour tout le monde, rassurer énormément les personnes que ça angoisse un petit peu de visiter un musée parce qu'elles ont peur de rater des choses. choses ou de ne pas aller voir les bonnes choses au bon endroit. Enfin bon, il y a des gens qui sont comme, pour qui c'est difficile une visite au musée, et ce cheminement les rassure énormément. Voilà. Mais comme on en parlera sûrement, beaucoup d'outils d'accessibilité servent de toute façon à beaucoup plus de monde qu'on l'imaginerait.
Alors dans Patrimoine, il n'y a pas que les musées. Du coup, on peut se poser les mêmes questions sur, par exemple, la visite d'une cité médiévale. Est-ce que à Braille et Culture, vous quittez des fois les murs des musées pour aller accompagner des gens à adapter d'autres espaces ?
Bien sûr, Comanche la Rouge, par exemple, une cité dans la région, ou Blaye.
Il y a les mêmes problématiques de parcours typique ou alors.
Non, il y a toujours un parcours. Là, je suis pas d'accord avec le choix de Michelin. Pourtant, on travaille assez souvent, que ce soit avec Gonzague Denart ou Olivier Basset, qui sont les responsables. Mais ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ont dit, là, ils sont partis vraiment du musée préconçu, qui n'est pas fausse forcément, ils n'ont pas demandé l'avis aux gens. Ils ont dit, c'est fatigant pour un déficient visuel de faire une visite. Donc, on va faire une visite calibrée sur 1h30, 2h, pas plus. Et ils ont fait une visite adaptée sur 1h30, 2h. Et il y a tout un tas d'aspects de l'aventure Michelin hyper intéressants qui ne sont pas compris, évidemment. Ils n'ont pas laissé le choix à la personne déficiente visuelle de choisir sa visite. C'est quand même scandaleux. Enfin, pardon, mais c'est vrai.
Oui, oui, c'est vrai.
Donc, c'est un. Ouais, là, on ne fait rien. C'est comme ça.
Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'elle accueille. Donc, vous arrivez avec une canne blanche, elle comprend, la jeune fille, que vous êtes déficient visuel et qu'elle vous propose un audio. Vous ne pourrez pas suivre. Et elle ne sait pas. Alors je pense que ça n'a pas été anticipé non plus, elle n'a pas été formée. Elle ne sait pas que ce qu'elle va vous donner, vendre plutôt, ben ça ne correspond pas au trajet que vous allez suivre. Et bon, c'est un détail, mais on tombe toujours sur le problème du budget.
Du budget, puis c'est très compliqué. Là, on a le problème de l'accueil, des personnels d'accueil. Il n'y a plus de personnel Michelin maintenant, c'est la société machin
qui. C'est la PAC, je pense.
La PAC, merci. Ouais. La PAC. Les personnels changent tout le temps. Mm. Au départ, on avait formé les personnels Michelin, qui étaient formés à l'accueil, au guidage, les personnes déficientes visuelles, etc., etc. Et maintenant, ça change toutes les. Enfin, bon, bref, c'est jamais les mêmes. Donc, voilà. Et il n'y a pas que l'aventure Michelin, hein, le problème des agents d'accueil qui changent.
Et puis, quand il s'agit d'accompagner un non-voyant, on a le sentiment que les gens sont armés. Quand il s'agit d'accompagner un malvoyant, est-ce que c'est pas plus compliqué ? Déjà, d'une part, il y a l'identification de la personne qui arrive, et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on lui propose ? Parce que autant on peut presque supposer que la personne, elle lit le braille, elle est intéressée au toucher quand elle est non-voyante. Quand elle est malvoyante, qu'est-ce qu'on va lui proposer ?
C'est ça, encore une fois, c'est de la formation. Hein, c'est insister sur les éléments visuels marquants, lui demander son avis, bien évidemment, sur un support, si elle le comprend bien, si elle voit bien, l'interprétation des couleurs ou autre, si elle voit très mal. Enfin, il y a vraiment une formation à faire sur l'agent d'accueil, la personne qui.
Alors justement, je vous propose de passer à la partie accessibilité des contenus, et de la même manière que tout à l'heure, je vais poser la même question aux malvoyants et non-voyants de cette salle qui ont envie de s'exprimer. Avez-vous déjà été agréablement surpris par l'adaptation d'un contenu culturel ? Est-ce qu'il y a un endroit, un moment où vous êtes dit « Ah, c'est vraiment pertinent, je comprends pleinement ce qu'il y a en face de moi. »
Je ne sais pas si je vais bien répondre à cette question-là, mais c'était au Louvre. La description d'un tableau de Nicolas Poussin par une personne, franchement, on sentait qu'elle aimait, cette personne, la peinture, ce qu'elle faisait, et nous autres handicapés. Il y avait une chaleur qui passait, il y avait une description, et en nous voyant vraiment pas très bien, arriver à imaginer les couleurs, les formes, les positions des personnages, des pierres autour, pour moi c'était fabuleux.
Mais ça passe par l'humain.
Ça passe toujours par l'humain. Mmh. Et par de la description. Mmh. Hélas, alors, on tombe toujours sur nos discussions, le toucher ou la description. Mmh. Ça, on n'a même pas pu approcher. Parce que parfois, on dit, donc, et ça c'est quoi ? Alors on approche avec le doigt et on dit, donc, on peut pas y aller.
D'autres réactions peut-être ? Paul ? Je ne sais pas si.
Non, pas spécialement, parce que bon, j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai visité pas mal de musées, pas mal d'endroits, mais à chaque fois j'avais tout le temps en fait avec moi soit des amis, soit de la famille, Et donc en fait, à chaque fois, c'est eux en fait qui me décrivaient. Si je voyais pas, je leur disais ouais, là, j'arrive pas à voir. Et ils me décrivaient, ils m'expliquaient. Donc en fait, j'ai jamais vraiment suivi un parcours vraiment adapté. Même s'il y en avait, je les ai jamais pris.
Quand on est ensemble, finalement, c'est plus sympa d'être avec ceux qu'on connaît que d'être avec un audio guide dans le creux de l'oreille, quoi.
J'en ai eu des. J'ai utilisé des audio guides. C'est vrai que bah, ça évite en fait de demander. Après, on peut. Enfin, c'est pas que ça me dérange de demander à mes amis ou la famille, mais avec un audio guide, c'est vrai qu'on peut vraiment se faire sa propre idée. Et surtout là où je trouve qu'il y a certains audio guides qui sont mieux que d'autres, c'est quand par exemple ils vont vous expliquer quelque chose et qu'en même temps derrière, vraiment pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, vous avez un bruit de fond ou quelque chose. Et là, ça permet vraiment de. Enfin, vous avez vraiment une immersion. Parce que c'est quand vous avez juste quelqu'un, des fois, qui parle comme ça, qui parle, c'est ennuyeux au bout d'un moment. Alors que pour certaines choses, je sais que, enfin, pour moi, le fait d'avoir un bruit de fond ou quelque chose, c'est vraiment immersif.
Ajouter une dimension sonore, plus des bruitages finalement.
Bah, sonore ou même
une ambiance.
Oui, même si c'est une odeur ou quelque chose, c'est vraiment immersif. Et
on va vers ça.
Alors,
vous posez la question tout à l'heure de la participation des déficients à une accessibilité. Vous pourriez poser exactement la même sur la participation des déficients à une visite. Des visiteurs papillons, etc. Mais de la motivation et de l'intérêt des visiteurs par rapport à la personne qui présente, que ce soit par description ou par toucher, la visite ne sera pas du tout la même. Il y a parfois des gens qui viennent, il y a une sortie, j'y vais. Ils sont là. Ils ne sont pas spécialement intéressés ni par la poterie, ni par la peinture, ni par autre chose. Ils sont là. Et d'autres dans la population qui, eux, vont être vraiment motivés pour apprendre à se cultiver. Et là, alors là, la visite devient particulièrement intéressante parce que les questions sont toujours pertinentes. Et la personne qui présente, ça lui permet de grandir.
Et donc ça dépasse la question du handicap. Finalement, c'est tout public qui peut avoir ces deux démarches-là.
Oui, bien sûr.
Quelles sont les nouvelles technologies qui nous aident à développer justement les moyens de communiquer aux personnes déficientes?
Ouais, j'ai évoqué la 3D qui permet d'avoir des artefacts, d'avoir des copies d'objets, etc. Et on utilise beaucoup des applications téléphoniques. Braille et Culture, on développe tout de suite des applications où on va visiter un site et sur son smartphone, on aura l'audio description, la visite sensorielle plutôt. Et en même temps, s'il y a des personnes atteintes de surdité, une visite en langue des signes sur l'écran. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On travaille beaucoup aussi avec les déclenchements par QR code, mais ça demande quand même aussi quelques aménagements, parce qu'il faut savoir où il est le QR code. Quand même. Voilà, pardon. Nous travaillons sur ce type d'application en ce moment. On a travaillé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre le Puy et Compte, avec des étapes. Il y a des tables d'interprétation en relief et en braille, et puis tout le long, des déclenchements de smartphones avec des commentaires. Voilà.
Est-ce qu'on voit émerger la technologie du sans-contact pour le paiement, par exemple, ou pour quand on rentre dans un transport en commun, valider son titre de transport? Ces types de technologies qu'on appelle RFID, peuvent être activées à une distance d'un mètre, voire deux mètres. C'est celles qui sont utilisées dans les passeports, par exemple, pour qu'on vous scanne sans que vous le sachiez. Et est-ce que c'est aussi des technologies vers lesquelles vous allez? Parce que de plus en plus de téléphones sont équipés de ces dispositifs.
On va réfléchir à ça. Après, il y a des problèmes de mise en place, il y a des problèmes d'entretien, de réseau, enfin bon, c'est un peu des problèmes techniques derrière. Mais on en est aussi sur ce genre de procédé.
Et est-ce que vous travaillez aussi sur le guidage? Alors, on avait visité Ecpers pour aller d'un point à un autre.
Oui.
Il faut quelqu'un nous accompagne, notamment avec une sorte de GPS, oui, sur le QR code.
Tout à fait. Bah, vous avez des GPS piétons qui sont assez performants aujourd'hui. Ça s'est beaucoup amélioré. La première fois qu'on a mis en place une visite avec un système GPS comme ça en toute autonomie, c'était sur la Boire des Carrés à Vichy, en bordure de l'Allier, je ne sais pas si vous imaginez. Et les essais qui ont été faits par une société qui venait de chez Pédou à l'époque, la précision n'était que de 2 mètres. On a manqué perdre quand même quelques visiteurs. Enfin voilà, mais aujourd'hui ça c'est beaucoup quand même.
Alors vous parlez de l'impression 3D pour la production d'artefacts, juste à l'instant. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet à moindre frais de reproduire de manière quasiment identique un objet. Seulement, ça marche assez bien pour un objet qui est de la taille de l'imprimante 3D. Une imprimante 3D, ça fait souvent 20 cm par 20 cm par 20 cm. Vous voyez qu'il y en a des plus grosses. Enfin, ça dépend. Mais comment...
toucher quand même, moi, je trouve.
Alors oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects. C'est que d'une part... le toucher n'est pas le même.
Non.
Et puis en plus, des fois, on est obligé de jouer sur l'échelle. On ne peut pas faire rentrer une église dans une... Donc comment est-ce qu'on fait comprendre le volume quand on a une maquette sous les doigts?
Alors bon, c'est la maquette tactile. Hein. On a initié en Auvergne une maquette tactile il y a une vingtaine d'années. Il y en a une très belle au musée de la céramique. En jouant sur les matériaux, en jouant sur le toucher, en jouant sur la qualité thermique également des matériaux, on arrive à avoir des rendus. C'est vrai que l'impression 3D nous donne une matière plastique. On est en train de travailler en ce moment, on a eu des propositions avec un certain Blanchard, que j'en ai connu, sur des reproductions en 3D, en travaillant justement sur les différences tactiles. On va voir ça. Ça va donner. Mais c'est vrai que le matériau d'origine, par exemple la céramique, c'est de la céramique. On a quelque chose de frais, on a quelque chose
de... Il y a des imprimantes 3D qui peuvent utiliser la pigmentation.
Oui, je sais, oui.
Donc,
c'est le
premier.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Et les imprimantes ne font pas 20 cm sur 20 cm.
Non, celles de la maison, elles font ça, mais...
1 mètre sur 1 mètre, quoi. C'est pas du tout...
La semaine dernière, il y a la première maison qui a été imprimée en 24 heures, on peut habiter dedans. Donc. Mais ok... C'est pas la même taille.
Et nous, on travaille justement avec le Fab Lab du Puy-en-Velay, qui fait partie de l'Université d'Auvergne.
C'est vrai.
Et qui ont comme ça plusieurs imprimantes 3D et qui peuvent varier les matériaux et qui font des recherches dessus. On peut même imprimer du chocolat.
Alors je glisse une mini parenthèse. À 19h, pendant le moment où on prendra le temps de discuter autour d'un verre, il y a des étudiants qui viendront présenter un prototype de carte tactile imprimée avec du plastique. En fait, c'est un extrait d'un sujet de recherche. Là, du coup, je remets ma casquette d'enseignant-chercheur que je porte sur la génération automatique de cartes tactiles de quartier, en fait. Voilà. Donc c'est un prototype vraiment balbutiant qu'on vous présentera tout à l'heure à 19h. Donc sur ces questions de maquette et d'impression 3D, voilà, stay tuned, comme on dit.
Je reviens quand même là-dessus, je pense qu'effectivement avec l'imprimante 3D on peut faire des choses, mais avoir des objets dans les mains les plus proches de la réalité, c'est bien. À l'aventure Michelin, ils ont fait le choix de passer par des plaques sensorielles où ils représentaient des pneus dessus. Imaginez l'intérêt du visiteur à découvrir un pneu sur une plaque en plastique alors qu'il y avait des pneus. Voilà. Donc ça, ils sont revenus un peu là-dessus. Parce qu'il y a aussi ce qu'on s'appelle moi, les marchands du temple, c'est-à-dire les gens qui vendent des choses, qui les vendent très cher. Et à Brayer Culture, on essaie de favoriser l'existant, travailler avec ce qui existe. C'est pour ça qu'on s'en fiche pas. Mais on essaie de faire beaucoup.
Alors là, depuis tout de suite, on parle beaucoup du sens du toucher comme manière d'appréhender. Juste avant, on a eu une légère remarque au sujet de l'odorat. Est-ce que vous explorez d'autres sens? Au sens large, je ne sais pas. Vous avez parlé de sensations, donc de perte de l'équilibre d'une certaine manière sur la chaise. Donc c'est le sens de l'équilibre que vous...
Pas forcément le sens de l'équilibre, mais le côté vibration effectivement du siège. Donc ça c'est vrai pour les animations dynamiques. Mais je sais qu'il y a un autre espace à Vulcania qui fonctionne généralement très bien. Alors, on s'en rend particulièrement compte quand on accompagne les personnes. C'est ce qu'on appelle la serre. Qui du coup est un espace, contrairement aux autres, qui est très sombre et relativement froid. C'est le chien, d'accord. Ça n'intéresse pas beaucoup.
J'ai juste la lumière.
Donc c'est vrai que l'essentiel des espaces à Vulcania, comme je disais tout à l'heure, comme on est sur un site... souterrain, on est sur des zones plutôt sombres, plutôt un peu fraîches. Et quand on arrive sous cette verrière, pour peu qu'il fasse beau, il y a une vraie luminosité, alors que l'on perçoit plus ou moins, évidemment, selon le degré d'efficience. Mais il y a aussi l'effet de chaleur, du coup, qui va être ressenti, une atmosphère plus humide, les bruits d'écoulement d'eau, les bruits d'oiseaux également. Donc on va jouer aussi sur l'auditif, effectivement, et sur la sensation corporelle que l'on peut avoir quand on est plus ou moins exposé à la lumière.
Oui, tout à fait. On utilise les sensations, les odeurs très importantes, les odeurs d'humidité parfois dans les châteaux, les odeurs de cire, de meubles, etc. Et ça, c'est très important dans un village aussi, les fontaines qui coulent, c'est un repère auditif. Les sensations thermiques, les courants d'air, les ombrages. Alors, on essaie de faire, c'est là, il y a un choix aussi, on fait une visite en été. Donc, le descriptif sensoriel va faire appel à des odeurs, à des notions de chaleur, donc qu'on n'aura pas forcément dans toute l'année. Voilà, et ça, c'est important. Et là, on est en train de travailler avec une entreprise de Haute-Loire, précisément, sur les parfums, sur les odeurs.
Vous parliez de l'instant des odeurs, et c'est des choses qui sont scénographiées volontairement ou juste qui sont constatées alors que le lieu est déjà en place. C'est-à-dire, est-ce qu'on va produire du contenu olfactif? Est-ce qu'on va produire du changement thermique?
Pas de changement thermique, non, mais olfactif, oui, on va créer, pour créer des ambiances, c'est ce que disait Paul tout à l'heure, on va être en immersion dans un lieu, dans son histoire, dans son... C'est pas
ça. Sur la céramique, vous devez avoir aussi l'olfactif, parce que je sais que nous, sur des prestations adaptées pour les groupes en salle, on va effectivement mouiller des cailloux pour faire découvrir l'odeur du caillou, qui peut être différente selon le type de roche, justement pour amener à identifier que selon le type d'éruption, on a des roches différentes. On va passer effectivement par le toucher de ces roches, plus ou moins lourdes, avec une texture différente, mais on va passer aussi sur le fait de tremper les cailloux dans l'eau pour révéler une odeur qui est différente selon le type de roche.
On ne peut pas trop nous tromper dans les céramiques de Milan.
Non, mais...
Vous êtes rabat-joie.
Ma conservatrice
compte. Non, mais d'autres, un morceau après, de glaise.
On a des odeurs de terre, des odeurs voilà. De chaud, en fait, parce que des odeurs de cuisson, d'aliments. Enfin, oui, on a tout un panel d'odeurs.
Nous, on trempe des cailloux qui ont 6000 ans. Mais ce ne sont que des vulgaires cailloux, effectivement.
Et alors, quand on comprend un petit peu là, ce que vous racontez, on voit qu'il y a une grande diversité de contenus qu'on peut proposer, rendre accessible. Pour l'instant, on n'a pas vraiment abordé le processus de construction d'une exposition, d'une installation ou d'un musée. Mais est-ce que dans vos pratiques et dans ce que vous connaissez, l'adaptation, elle est partie intégrante du processus de création globale ou elle vient après, quand il s'agit de mettre en valeur quelque chose d'existant? Alors, je sais que pour celle qui existait depuis longtemps, bon, bah, on est arrivé après, donc on a. Mais aujourd'hui, qu'on commence à depuis 2005, on va dire, voilà, donc ça commence à être un processus intégré. Est-ce que vous imaginez dès le début des expositions en pensant à la fois à l'accessibilité et au contenu lui-même?
Alors, l'accessibilité, oui, je dirais par la contrainte réglementaire. Et encore, c'est quand même pas toujours facile, encore une fois. Le contenu, c'est encore plus difficile, enfin, à notre niveau. C'est quelque chose qui est peut-être pas totalement rentré dans les mœurs encore. En fait, quand une équipe de direction pense accessibilité handicap, on pense en priorité à la personne en fauteuil et on va se placer effectivement du point de vue réglementaire qui, même s'il prend en compte d'autres types de handicap, est quand même très orienté encore sur le moteur. Et de ce fait, il n'y a pas forcément beaucoup de réflexion sur comment j'adapte mon contenu, parce qu'on, bah oui, bah une personne en fauteuil, le contenu, il est adapté de facto. Donc sur les autres types de déficiences, c'est plus difficile.
Et là, vous dites adapter, parce que quand même, l'idée d'adapter, c'est prendre quelque chose qui existe déjà et le transférer pour que ce soit accessible à d'autres. Donc déjà, même le mot adapter lui-même...
Oui, des notes que...
C'est un processus en deux temps, quoi.
Voilà.
C'est pareil de votre expérience ?
Enfin, nous, au musée, ce qui est quand même bien maintenant, c'est que ça fait 10 ans, et comme c'est une équipe qui est quand même restée assez stable, est née petit à petit une espèce de culture de l'accessibilité où chacun dans son travail, quand il crée quelque chose, ben, automatiquement, il va sans le faire exprès, maintenant, faire attention aux contraintes pour l'accessibilité physique, pour les grosseurs de caractère, les contrastes, pour tous ces éléments-là dès le départ. Mais ça, c'est 10 ans de rabat-joie de ma part. qu'il faut toujours garder ça à l'esprit et que même c'est pas forcément une contrainte mais que ça peut justement être bien pour tout le monde, mais faut que ça s'installe doucement.
Et est-ce que ça provoque de l'innovation dans la scénographie ou dans l'installation? Souvent on dit en création artistique que la contrainte c'est ce qui produit l'innovation artistique. Est-ce que sur la muséologie, donc on dit bien comme ça, muséologie, est-ce que ça provoque aussi l'innovation ou est-ce que ça n'en est pas encore?
On invente des nouvelles choses et forcément ça crée une richesse qu'on n'avait pas avant.
Travail et culture, vous êtes impliqué parfois dès le début de la création d'un...
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile d'imposer le début. Je reviens sur l'accès au contenu. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, notamment les applications par smartphone ou autre, c'est plus facile. On peut avoir un texte qu'on peut télécharger sur un téléphone et on a accès au contenu, enfin littéraire.
Oui.
Pour une exposition temporaire.
Oui, nous on passe par un système d'audio guide effectivement, mais l'application est rentrée aussi. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, donc peut-être qu'il y aura dans un futur proche une utilisation plus importante de ce système d'application pour l'accessibilité, pour développer l'accessibilité. Oui.
Tout à l'heure, on évoquait la problématique du GPS qui a une précision qui, il y a quelques années, était plutôt de 2 mètres, aujourd'hui qui se raffine. Je connais une équipe de chercheurs dans l'Est de la France qui travaille à une technologie, je ne sais pas si vous la connaissez. Le principe, c'est que le téléphone, grâce à la caméra, il sait repérer où il est, parce qu'en fait, on sait... grâce à la caméra, si c'est une zone qu'on connaît déjà, quand la caméra elle regarde de nouveau ce qu'elle a vu auparavant, je vous passe les détails techniques, mais elle sait où elle est. Et du coup, cette application, elle permet de se diriger avec un son plus ou moins aigu, suivant qu'on est dans la bonne direction ou non, et avec une information, alors ça peut être soit de simple bip, soit du parler, pour les gens qui préfèrent du parler, et qui indique la marcher encore 5 mètres dans cette direction, etc. C'est des choses que vous imaginez vous pouvoir installer dans les musées, et puis ensuite on pourra aussi retourner la question aux gens qui pourraient être les usagers de ça. Est-ce que ça vous semble pertinent?
Quel est l'objectif de... C'est pour que la personne soit complètement autonome?
Par exemple, pour traverser ce bâtiment qui n'est pas bien balisé,
trouver la porte d'entrée, je pense que ça serait génial déjà. C'est... Là, on arrive à une traversée de rue, on sait que le bâtiment il est situé à peu près à tel endroit par rapport à un angle de rue, et voilà, je cherche encore où est la porte. Moi, je reste sur cette image que j'évoquais tout à l'heure, et c'est vrai que ce genre de situation
en déambulation urbaine, oui, bien entendu.
Voilà, après à l'intérieur, c'est
pas
avec un écouteur. On a l'écouteur, et en fait le smartphone, ça devient l'assistant du déplacement dans un site.
Ouais. Mais en fait, il y a une chose quand même que j'aimerais aborder. Combien de fois j'ai pu faire des visites, soit en groupe, soit en petit groupe, ce que je préfère nettement, ou comme disait Paul, avec des connaissances, ou mon fils. Je l'emmène faire une visite. Bon, il fait sa visite, il va où il veut. J'essaie de l'arrêter sur des points. Voilà. Mais le fait de se dire qu'il faut être complètement, de rendre tout autonome, complètement. Pourtant, je revendique l'autonomie. Mais pourquoi être complètement tout le temps, tout le temps, tout autonome? C'est dire c'est possible, une personne aveugle entre ici, elle peut faire sa visite. Je trouve ça un défi. Qui voilà, peut-être va permettre de développer des choses, être constructif et inventif. Mais c'est pas, c'est la première démarche. Parce que je pense que comme quelqu'un qui va se trouver devant des marches avec un fauteuil pour rentrer dans un endroit pour faire une course, va se trouver là et pas forcément dans l'impossibilité de faire sa course parce qu'il y aura moyen de descendre un plan incliné temporaire et rentrer. Mais c'est le cas assez isolé de la personne qui me paraît être le point fort d'une volonté d'adaptation qui me paraît un petit peu gênant. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que sur certaines visites, c'est obligatoirement en groupe. Ça, pour moi, c'est une aberration, par contre. Par contre, pour se donner la possibilité de faire des petits groupes de visites, je trouve que c'est sympa, mais que ce soit un groupe, tant de personnes, je dirais... un demi-bus, c'est trop. Pour moi, je suis partie des gens qui ne supporteraient pas cet aspect.
Non, si tu as un groupe, Laurence, tu ne peux plus utiliser les outils.
Non, voilà,
c'est trop. Quelqu'un,
voilà,
c'est un guide qui décrit, quelqu'un qui est formé oui. pour ça, et ça se passe bien.
Oui, sinon, oui ça se passe bien, mais c'est toujours cet aspect de groupe qui fait qu'on est toujours un peu porté par les choses comme ça, où on suit. J'ai évoqué tout à l'heure l'aspect mouton, pour donner le terme que vous cherchiez, que je ne connais pas. Mais pour moi, c'est la visite typique que j'aime pas. Pour moi, le groupe idéal, c'est 6 personnes maximum. Si j'arrive avec une amie, un ami ou mon fils, je serai à l'aise. Il n'y a pas de souci.
Mais la diversité.
La philosophie à la mariculture, c'est ce que tu viens de dire, Laurence. C'est de donner des outils de médiation et les gens les utilisent. Et on leur met à disposition pour compléter leur visite. L'idéal, c'est évidemment d'être en petit groupe.
Moi, je trouve que c'est. Oui, mais tu.
Après,
dans certains cas, j'ai entendu dire groupe.
On a une vie associative, donc on fait des visites en groupe.
Oui, oui, je sais, sais bien. Mais certains musées ou certaines visites auxquelles j'ai pu à un moment donné vouloir accéder, je ne citerai pas le nom, on me dit non, c'est visite en groupe.
Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
Voilà, c'est ça qui me pose problème.
Ça disparaît, je crois.
Alors, ça a une tendance à disparaître parce qu'on donne ces petits outils.
Il y a 15 ans, c'était ça.
Oui.
Vous êtes en groupe, donc vous êtes tout seul.
Ah, comment on va faire là, on va se sentir dépassé. Alors, 30 personnes aveugles, ça ne pose pas de problème. Une. Mais voilà, c'est vrai que ça tend à disparaître.
Mais ce que vous décrivez, cette hétérogénéité de la consommation de la culture, on la retrouve dans tous les publics. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à visiter seul une exposition, quant à l'inverse, d'autres préféreront le collectif. Donc, le point vraiment pertinent, ce serait de pouvoir proposer la diversité de ces points.
La difficulté, Jean-Marie, c'est quand tu fais une visite de Notre-Dame-du-Port, si tu as 5-6 aveugles sur la maquette du port en même temps, ça pose problème.
Ça déjà
problème. Oui, mais comme il y a 7 maquettes, chacun passe son tour devant la maquette.
Ouais, c'est pas
bien. Okay. Si, il y a les jeux de construction pour reconstruire la voûte. Ah, ils sont bien les jeux de construction.
Enfin, je prenais cet exemple-là pour prendre celui de la cathédrale de Clermont.
Je trouve que il y a l'aspect humain, donc faire une visite avec un ami, un fils, etc., c'est parfait. Et l'aspect du contenu, une note de description qui vient compléter.
Oui.
Ça permet d'avoir un éventail d'informations plus large.
Ah oui. Oui, je suis entièrement d'accord.
Ça se complète
parfaitement. Oui, ça se complète parfaitement. Quand j'évoquais une visite accompagnée, j'ai fait quelques visites en bénéficiant non seulement d'un soutien des compétences de la personne qui m'accompagnait, puisque c'est une personne qui a fait des études aux Beaux-Arts et qui était tout à fait prête à me donner des tas d'indications sur la peinture que nous allions appréhender. J'ai quand même pris un audio guide et les deux ont été très complémentaires et ont apporté et ont enrichi les choses. Elle a pu écouter aussi et c'était vraiment doublement riche puisque ce qui était décrit, elle pouvait déjà en profiter aussi puisqu'elle l'a pris pour elle aussi et puis donner d'autres aspects ou questionner certaines choses chez moi que ça pouvait évoquer. Donc ça a été très très riche. C'est Oui, c'est toujours complémentaire. Et quand je parlais d'autonomie, c'était plus sur le cheminement et la déambulation au sein de l'établissement. Suivre un guide en groupe ou suivre quelques personnes avec qui on fait la visite, c'est pour moi deux choses.
Oui, d'autant que ça permet l'interactivité.
Oui. Oui.
Question-réponse, c'est plus vivant.
C'est plus vivant.
Bah, si vous posez une question à l'audio guide, il ne va pas vous répondre.
Alors justement sur ces questions, ouais c'est ça, parce que sur ces questions d'interactivité, on voit de plus en plus de dispositifs dans les musées où c'est des dalles par exemple tactiles ou qui vont proposer aux visiteurs d'interagir avec la dalle. Donc ils posent des questions, ils disent si vous êtes intéressé à poursuivre les informations, appuyez sur avec ma fille qui est non voyante, quand je fais ce genre de visite, bah je suis bien mal à l'aise pour lui, ou alors faut que je décrise la totalité de l'écran. Ou alors, est-ce que vous avez des dispositifs de ce type-là, interactifs ? Donc c'est généralement une tablette tactile posée qui va parler et mettre du son. Et puis par exemple, on peut se déplacer dans une courbe chronologique, poser son doigt à l'endroit qui nous intéresse. Et puis du coup, on saura ce qui s'est passé en moins 500 avant Jésus-Christ. Enfin, je caricature un exemple. Est-ce que vous avez des dispositifs de ce type-là ? Et comment est-ce que vous imaginez les adapter ? Parce que pour moi, c'est l'arrivée des nouvelles technologies qui permet une autre manière de rendre fun la visite de ces lieux qu'on disait un peu barbant au tout début, qu'on ne voulait pas que ce soit ça. Mais en même temps, ça va être l'exact opposé de ce qu'il faudrait pour que ce soit accessible pour les non-voyants. Quoi.
Je pense que ça peut donner vraiment un caractère très ludique aux visites. C'est...
Mais comment est-ce qu'on appuie sur une dalle tactile complètement lisse où il y a 7 boutons qui ne sont pas symbolisés ?
Et voilà.
Ils ont enfin, les non-voyants ont des téléphones tactiles.
Oui.
Donc, je veux dire que c'est l'apprentissage du tactile. Finalement, on est obligé d'y passer.
Mais alors, par exemple, si aujourd'hui, parmi les non-voyants, il y a des gens qui utilisent un téléphone tactile, ils installent une application par-dessus qui ne va pas les faire utiliser directement l'interface telle qu'elle est utilisée par les voyants. C'est une interface qui vient faciliter la navigation par un certain nombre d'interactions simples, type gauche-droite, double-clic, etc. Du coup, sur une dalle telle que j'ai décrit avant, il faudrait aussi repenser la dalle pour qu'elle passe en mode accessible simplement par glisser gauche-droite.
Elle était accompagnée par vous ?
Oui, voilà.
Oui, d'accord, mais je suis un faux exemple.
On peut imaginer un village sonore.
Mais il a surpris beaucoup de monde comme ça.
C'est un défi.
Et qui en plus est en train d'arriver, parce qu'on voit arriver partout.
Nous, on n'a pas pour le moment.
Vous n'en avez pas ?
Pas pour le moment.
On a évoqué ça dans le quotidien. On a eu une réunion justement à la CPSA sur ce sujet-là. C'est tous les objets du quotidien qui aujourd'hui ont des écrans tactiles. La machine à laver, le four, etc. Et là, avant, on faisait des repérages avec la serre. On avait des repérages avec des boutons qui tournaient à gauche, à droite, là. Voilà.
Aux impulsions.
C'est pas
1, 2, 3.
Si vous voulez retrouver votre linge en métal, il faut avoir des bons repérages.
Il y a une action au pas des fabricants pour savoir s'ils ne pouvaient pas faire une gamme de produits.
Et c'est. Jean-Marie évoquait l'aspect pour les plages, pour les téléphones tactiles. Soit c'est des adaptations, donc un logiciel qu'on ajoute au téléphone. Et ce qui est bien dommage, c'est là aussi, ça a été trop peu pensé en
amont.
Natif.
Oui.
C'est rarement natif. Moi, j'ai souvenir, il y a quand même 25 ans, je vois pas. Déjà, il y a 25 ans, on commençait à se dire, on peut faire du son, du vocal. Bientôt, mais c'est simple, les boutons, ils vont parler quand on appuiera dessus, on saura. Jamais ça a été mis en place. On a pas ça en natif. La plupart des téléphones ne sont pas. Il y a une marque qui le fait, la pomme. Mais c'est, je crois que ça n'existe pas autrement. C'est pourquoi quand on parle de penser en amont les choses, je pense que c'est capital, parce que si on veut qu'une plage tactile puisse servir et permettre une mixité à la visite et qu'elle puisse servir aussi bien les personnes qui voient et à les personnes déficientes visuelles, il faut qu'elle puisse fonctionner pour tous. Ça, c'est pas évident.
Et même si c'est possible.
Et si notre prestataire, il fournit que des dalles qui ne savent pas le faire, est-ce qu'on exclut de s'équiper de ça parce que ça, rend pas, ça complexifie l'accès aux non-voyants, ou est-ce qu'on dit qu'on trouvera une adaptation à côté pour compléter ? C'est quoi les pratiques quand vous avez des nouvelles technologies comme ça qui arrivent et...
Il suffit de regarder un programmateur de machine à laver aujourd'hui. Hein. Il sera vendu dans le commerce avec un programmateur inaccessible pour la plupart du temps, dans la plupart des cas. Moi, ouais, j'ai jamais acheté une machine avec ces adaptations qui peuvent exister dans le commerce spécialisé pour les personnes déficientes visuelles. Jusqu'alors, je me suis débrouillé avec mes repérages à moi. Donc, ça nécessite une application d'une tierce personne. Mais c'est pas la volonté première encore aujourd'hui. On pense plutôt à, il y a un programmateur, c'est l'électronique, on peut le piloter par un téléphone, on va interagir avec une application qui permettra de rentrer dans le programme. Alors, ça peut être ça aussi, pourquoi pas ? Une application.
Les outils connectés.
Voilà, une application connectée à celle qui est mise en place.
Je sais pas où ça en est maintenant, mais il y avait un four micro-ondes qui parlait.
Oui, four micro-ondes, balance.
Comment ça marche ouais. Non, mais je veux dire, on pouvait le piloter.
Oui.
Quand on fait une impulsion, on dit 100 degrés, après la deuxième, 120. Il était assez accessible.
Oui, oui, mais ça existe. Ça existe.
C'est pas donné au
voilà.
cours de tout le
y a,
monde.
Il y a un surcoût, alors que insérer ça en natif, ça serait vraiment un moindre investissement.
Parce que quand on parle d'accessibilité, je pense que le budget, on en a parlé tout à l'heure lors de la première réunion, après, quelqu'un qui veut intégrer un grandisseur, c'est pas donné à tout le monde. Quand on parle de la loi 2005, modifier un bâtiment, il y en a qui ne pourront jamais être modifiés.
Et puis qu'il ne faudrait surtout pas modifier aussi, à mon avis.
Mais après, quand c'est fait en natif, exactement, du départ, un bâtiment neuf, si c'est prévu, c'est assez facile. Mais on rentre dans des problèmes de budget. Et on rentre tout le temps dans les
musées. Alors là, on parle de produits de consommation pas courante, mais du moins que le grand public acquiert. Pour les musées, les équipements ou les lieux que vous gérez ou que vous équipez, les équipements, ça fait partie de choses qui sont fabriquées en série ou c'est du sur-mesure ? Et si c'est du sur-mesure, on peut imaginer l'intégrer dans le cahier des charges dès le début.
Nous, c'est souvent du sur-mesure.
D'accord, donc ça pourrait faire partie des cahiers des charges initiaux. On s'équipe d'une dalle tactile, mais elle devrait être accessible à un déficient visuel, sinon on la déploie pas. On pourrait imaginer ça.
On pourrait, dans l'absolu, on pourrait. Tout est possible.
Et dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui, j'imagine pas aujourd'hui, la direction de Vulcania renoncer à un projet parce que il n'y a pas moyen de l'adapter. Ou d'en faire une version accessible immédiatement. C'est peut-être cash, mais... Ah non, ce n'est pas une question de délai, c'est une question de priorité.
De priorité.
C'est, je veux dire, on peut regarder effectivement en termes de fréquentation pure. Mm-hmm. Je veux dire, la fréquentation des personnes en situation de handicap aujourd'hui, c'est 0,8% de la fréquentation.
Mm-hmm. Ouais. Donc, le budget ne doit pas dépasser.
C'est pas une question.
Non, mais enfin, si c'est une question de budget, parce qu'effectivement, il y a une adaptation qui peut être onéreuse, c'est le public représente une petite partie, j'entends, on peut ignorer les minorités. Mais
c'est pas mon cas. Hein.
Non,
c'est,
j'entends bien. Voilà. J'entends bien.
Mais je ne suis pas la direction.
Ce qui est, à mon avis, peut-être, vous êtes aussi porteuse d'un message dans tous les cas, même si ça n'ira pas forcément plus loin que ce que vous semblez évoquer. Mais ça passe par ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le public. Même ce public minoritaire qu'on peut représenter, dans tous les cas, on sera une minorité. Je crois que j'ai eu un chiffre assez récemment sur les personnes qui ont un handicap visuel profond, donc on va dire une cécité, même si elle a une vision résiduelle, serait 205 000 personnes en France. Et il y aurait 1500 personnes qui auraient des chiens guides. Donc le nombre est pas très important, effectivement, et tant mieux finalement, mais les personnes qui ont une basse vision, représente un nombre là qu'on a du mal à mesurer. Mmh. Et d'accord. La basse vision, c'est toutes ces personnes qui, vieillissant, ne peuvent plus faire ce qu'elles font habituellement parce que DMLA ou autre, parce que c'est quelque chose qui ne sera pas reconnu comme un handicap tout de suite, ou pas volontairement ou pas, parce que c'est pas évident de faire la démarche. Et puis... tout un tas de personnes qui sont mises de côté. Et je pense que quand on parle déficience visuelle, alors on va schématiser la personne qui a la canne, le chien qui voit quasi que dalle, mais il y a toutes ces personnes qui ne seront pas en mesure de lire un texte, qui ne seront pas en mesure de s'orienter complètement toutes seules, et ces personnes-là sont de plus en plus nombreuses.
Oui, c'est la même chose sur le moteur. Alors je pense que c'est quelque chose qui est plus intégré par rapport au handicap moteur que sur le visuel. Mais voilà, encore une fois, il y a des discussions actuellement sur des nouveaux projets pour Vulcania. Même sur la réflexion du handicap moteur, il n'y aura pas de renoncement à une idée, à un projet, parce qu'on ne saura pas comment la rendre accessible. On essaiera de trouver une autre technique, on essaiera de proposer une solution... compensatoire, même si c'est un terme que j'apprécie pas à titre personnel, mais il n'y aura pas de renoncement parce que l'accessibilité ne sera pas envisageable. Je ne sais pas ce qu'il en est sur d'autres structures, mais...
Non, on m'a souvent demandé le nombre de personnes handicapées qui venaient au musée, surtout après avoir reçu le prix. Et en fait, on n'a jamais rien donné, puis de toute façon, on ne les comptabilise pas. Et on ne sait pas forcément, quand quelqu'un vient au musée, s'il est porteur de handicap ou pas.
Et vous n'avez pas une tarification, un tarif réduit, oui, alors non. Que nous, on arrive à le comptabiliser.
Et en fait, ce qu'on essaye de répéter, c'est que tout ce qu'on a fait pour l'accessibilité sert tellement à tous les autres publics qu'il n'y a même pas à discuter de si c'est rentable ou pas, ou s'ils mettent de l'argent là-dedans, ça fonctionne ou pas, puisque oui, ça fonctionne, c'est évident, c'est pas évident à faire comprendre. Mais on ne comptera pas les personnes handicapées au musée, ça c'est sûr.
La solution, c'est effectivement de travailler sur des outils qui servent tout le monde.
Oui, là,
oui. Non, relief, ça va tout le monde, les audio guides, ça va
tout le monde. Tout à fait.
C'est la solution. Parce que si on reste uniquement pour les visiteurs, niche de visiteurs, on cherche moins.
Ah non, mais là, j'évoquais même pas une notion de rentabilité. La question était, est-ce que vous seriez prêt à renoncer
ça va rapporter quoi
Oui, non, là, je
rentre. La reconnaissance.
Mais est-ce que du coup, vous pensez que c'est un manque de connaissances des citoyens en général, des gens avec qui vous travaillez par rapport à ces problématiques-là, le fait que...
Oui, ça peut s'expliquer, en grande partie, effectivement. Ce sera
pas... C'est une ignorance, en fait, d'une situation donnée.
Oui, ça peut être un manque de connaissances ou...
Juste un manque de réflexion parce qu'elles n'ont pas réfléchi. Travailler pour l'accessibilité, c'est juste respecter les personnes qui vont venir vous voir. En fait, c'est juste ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas juste réfléchi à ça, qu'on se doit d'accueillir n'importe qui de la meilleure façon possible. Et voilà, c'est une histoire de respect. Et souvent, nous, au musée, il y a des gens qui n'utilisent pas du tout ce qu'on propose, qui nous disent, mais c'est un côté militant, c'est un côté citoyen, parce que on est un établissement qui respecte les différences et qui cherche pas à compenser quoi que ce soit, mais qui cherche à s'adapter, à faire des propositions les plus larges possibles. Donc c'est quand même, moi je pense au bout du compte, juste un respect de la personne. Et il faut peut-être y réfléchir 2 minutes pour se rendre compte, c'est tout.
Il faut peut-être inviter... responsable à faire des visites.
J'ai proposé. Asseyez-vous dans un fauteuil et puis on va voir quel itinéraire vous paraît le plus judicieux. Mais non, on n'a pas voulu.
C'est peut-être aussi le fait que quand on pense handicap, on pense handicap moteur.
Oui,
alors, par rapport à...
Tout à fait.
Au niveau de nos collègues de travail, mais on n'a pas d'ascenseur. Donc, en gros, on n'a pas de personnes handicapées qui viennent visiter le musée, puisqu'on n'a pas d'ascenseur, ils ne peuvent pas accéder. Et on est obligé de leur rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de personnes handicapées qui sont capables de monter des escaliers. Et que ce serait bien pour elles, effectivement, qu'on ait des panneaux qui soient lisibles, Peut-être des vidéos sous-titrées aussi, sans aller jusqu'à la langue des signes, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, de penser à qu'il y a des personnes handicapées qui sont capables de monter des escaliers.
Alors, quand on parlait de méconnaissance, je pense que ce mérite de ces dames le rendre, c'est aussi parce que la déficience visuelle, c'est vraiment diverses situations de handicap. Je l'oppose au handicap moteur, même si je ne le connais pas ou peu, mais les personnes qui ont un handicap moteur ont vraiment une force, c'est qu'ils ont un discours unilatéral sur l'accessibilité, pour les lieux notamment, hein, et pouvoir naviguer et se déplacer. Je pense que les personnes aveugles ont encore un chemin à faire dans ce sens-là, où faire connaître nos besoins, aussi divers qu'ils soient, c'est quelque chose qui peut être qui peut permettre la mixité, c'est-à-dire faire une visite avec d'autres, qu'ils soient touchés par la déficience visuelle ou non, mais qui n'amputent pas quoi que ce soit à la visite, puisqu'elle peut souvent l'enrichir. Vous l'avez jusqu'alors tous montré dans vos exemples. Mais c'est à nous de faire encore tout ce travail-là. Moi, je suis contente qu'il y ait aussi des personnes qui viennent aussi avec un handicap témoigner, parce que c'est ce qui me semble très important. On a encore, nous, personnes déficientes visuelles, à dire, à faire entendre que, ok, on a des besoins à un moment donné, mais ces besoins-là, c'est pas du gros œuvre, c'est de l'aménagement, c'est la visite elle-même avec son contenu, ce que vous voulez nous donner à voir, à entendre, à toucher, et c'est ce que vous nous donnez à visiter qui va être proposé. Vraiment, c'est votre visite. Donc c'est dans le contenu vraiment où on doit pouvoir ouvrir les choses au plus pour les personnes déficientes visuelles, à mon avis. Tout ce qui est déplacement, et ça, c'est des choses après qui peuvent être aménagées aussi. Mmh. Mais voilà. Bien sûr, il y a le bâtiment, il y a toutes les règles de sécurité, de normes d'accessibilité, les rampes, les escaliers comme ci, comme ça. Mais pour moi, ça, c'est vraiment secondaire. C'est parce que, si on peut se déplacer avec nos jambes, eh bien, c'est pas ce qui va nous poser problème. J'apprécie un ascenseur qui parle, mais j'aurai toujours à un moment donné mes mains partout pour savoir où ils sont les boutons. Parce que, je sais pas s'ils sont à droite, en haut, en bas. Ah oui, il faut penser aussi qu'il y a des personnes aveugles qui sont pas forcément très grandes, donc je vais pas mettre mes mains en bonne hauteur. J'y cherche. Il faudra toujours à un moment donné que je cherche où toucher. Et dans tous les cas, toute adaptation qui est faite, il y a jamais un truc parfait pour ce qui est du bâti, la structure et tout. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à vous professionnels, ce qui compte pour moi, et c'est mon avis, je le revendique comme tel avant tout, mais c'est vraiment le contenu dans ce qu'il peut donner à partager avec avec tous ceux qui font la visite. C'est ce qui me paraît le plus important, vraiment.
Alors, pour finir cette discussion, j'avais proposé qu'on parle un petit peu de diversité du public. En fait, on a déjà commencé à le faire, parce qu'on a évoqué le large panel qu'il y a entre les non-voyants et les malvoyants. Et puis, on avait commencé à évoquer les autres handicaps. Il y a aussi une particularité, c'est l'accueil du jeune public. Souvent, on a une démarche spécifique en direction du jeune public. Enfin, ça arrive fréquemment, qui n'est pas la même que celle du public général. Et est-ce que cette spécificité de développement, elle est compatible avec celle des explorations d'adaptation envers les non et malvoyants? Je veux dire par là, ça fait une grille à deux entrées. Il y a je suis non-voyant, je suis malvoyant, ou je suis valide avec les yeux. Et dans l'autre sens, c'est je suis un jeune public où j'ai envie d'un contenu plus élaboré avec un vocabulaire. Enfin bref, toute la diversité qu'on peut mettre dans jeune public et pas jeune public. Ma question, c'est il y a la case là, malvoyant ou non-voyant, jeune public. Comment est-ce qu'on explore? Et est-ce que c'est des problématiques qui vous intéresse ou vous interpelle?
C'est complémentaire, en fait. C'est complètement complémentaire. Quand on fait quelque chose pour le jeune public, il y a aussi le jeune public déficient visuel, et puis tous les enfants qui aiment toucher à tout, et puis les enfants qui connaissent le braille, et puis les enfants... Enfin, en fait, on ne se pose pas la question.
Je dis ça parce que des fois, il y a du texte qui est adapté pour les enfants, puis à côté, il y a le texte pour les grands, quoi. Enfin, ça arrive parfois. Il y a deux niveaux de lecture, avec un vocabulaire accessible, et en braille, est-ce qu'il y a cette duplication, par exemple?
Alors, nous, on n'a pas tout à fait la même problématique, puisque J'ai envie de dire, on n'a pas forcément des espaces où on va avoir un double discours. On va plutôt être sur des zones... oui, là, on est plutôt sur des zones adultes ou grands, plus grands que 7 ans, on va dire. Et on a d'autres espaces qui sont, à ce moment-là, plus particulièrement dédiés aux plus petits. Et notamment un espace qu'on appelle la Cité des enfants, qui est directement inspirée puisqu'elle a été travaillée en partenariat avec la Cité des sciences à Paris, où on a extrait, on n'a pas la même superficie que la partie Cité des sciences à Paris, mais on a extrait les modules qui nous intéressaient particulièrement. Et pour le coup, comme c'est effectivement que la notion de handicap est bien plus prise en compte, je dirais, sur la Cité des sciences, on a effectivement bénéficié de l'adaptation qui est faite de la Cité des sciences pour notre Cité des enfants. Donc on a des consignes en braille, et puis on retrouve effectivement tous ces modules qui se découvrent, notamment par le mouvement, par le toucher, par l'odorat encore. Mais c'est pas voilà, un espace qu'on décline à plusieurs niveaux, c'est plutôt dans cet espace-là, c'est plutôt telle tranche d'âge, cet espace-là, c'est plutôt tel autre.
Mais alors du coup, du braille pour les moins de 7 ans, ça fait qu'une année, parce que généralement on apprend à lire...
Alors c'est juste des petites consignes, hein, y a pas des tartines... Mais
ouais. C'est des questions qui vous interpellent aussi ou pas du tout?
Jusqu'à présent, non, on n'a pas traité de façon différenciée.
Normalement, tout ce que vous mettez sur un site touristique ou culturel, ça doit être compris par un. On dit que ça doit être compris par un enfant de l'âge de 12 ans.
En fait, oui, c'est ça.
Donc, sauf après, si c'est un scientifique, quelqu'un qui veut beaucoup plus de contenu, ben, il va aller prendre un bouquin, il va aller, mais on fait pas des présentations de la muséographie pour des experts. Ça doit rester quand même.
Et puis on alourdit trop la visite, on prend encore plus de temps. On est obligé de prendre un peu du sujet à dire.
C'est une culture qui est assez française, parce que dans les mondes anglo-saxons, il y a quand même une différenciation de la part du visiteur.
Il y a beaucoup d'espaces réservés aux enfants, oui.
Ouais.
Oui. Il y a une acceptation du public jeune dans les pays anglo-saxons qu'on n'a pas particulièrement en France. Enfin, c'est très difficile en France d'aller visiter un musée, ça poussait des problèmes.
Oui, nous, on est sur un produit qui est différent, puisque pour le coup, on est plus sur un site de loisirs qui est destiné à une visite en famille. Et donc, on est obligé de prendre en compte, et on le prend de plus en plus en compte, cette notion des plus petits, même si en parallèle, on est aussi en train de se développer vers des choses plus dynamiques et qui donc seront moins accessibles à tous, que ce soit... par rapport à une problématique de handicap ou par rapport à une problématique d'enfants trop jeunes ou de personnes trop âgées, puisque ce que vous disiez effectivement sur la déficience visuelle entre les 100% malvoyants qui sont peu et toutes les problématiques effectivement de vue que l'on peut avoir dans la population vieillissante, c'est quelque chose qu'on retrouve également sur le moteur. La personne âgée.
Pour les plus jeunes enfants, on propose aussi des documents DIFALC, faciles à lire et à comprendre, qui sont pour le public déficient mental et qui peuvent servir pour les très jeunes enfants, qui n'ont pas la lecture.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Vous avez envie de compléter avec des idées ou des remarques? Bon, on a balayé. Oui.
Est-ce que du coup il y a une sensibilisation qui est faite au sein de l'enseignement des muséographes, des personnes qui encadrent, qui font de la scénographie muséale
Là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à votre question.
On a des formations pour les guides, pour les personnels, ouais. Personnel de visite.
Et du coup, c'est ciblé à une demande en fait. C'est pas dans une formation générale, globale.
C'est dommage, j'avais lancé ça lorsque j'étais à l'université ici, mais quand on partait après les mains des yeux, moins du cœur, on dit. Donc ce que j'avais mis en place a été arrêté, c'est dommage, parce que c'était dans les formations en tourisme, et c'était quand même intéressant. Voilà. Là, on a des associations de guides qui nous contactent pour avoir des formations à l'accueil des publics déficients au niveau national. On a fait des formations à Paris et puis à Lyon. Et ça, au niveau des conservateurs, ils ont autre chose à faire.
C'est les conservatoires qui sont directeurs de musée, quand même. Ouais. C'est eux qui sont censés influencer sur les projets. Et c'est plus les médiateurs qui poussent derrière pour dire, ouais. Mais.
C'est les médiateurs qui vont faire des formations, mais pas les conservatoires. Ouais.
Voilà. Comme j'ai fait des formations, mais qu'elles devraient peut-être effectivement être faites à un niveau plus haut.
C'est pas évident. Il faut dégager du temps. On fait ce type d'action avec les chefs du personnel des usines Michelin pendant le cadre, dans notre cadre ici. Et ça a été assez difficile à dégager du temps des chefs de service pour utiliser cette formation.
Quand j'ai proposé à différentes formations de venir assister à cette table ronde, j'ai sollicité les formations de l'université qui pouvaient être de près ou de loin intéressées aux questions qu'on aborde aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, bon bref, d'étudiants qui sont venus finalement, mais en tout cas l'information est passée. Et donc j'ai contacté à la fois la licence pro guide conférencier, j'ai contacté aussi les différentes formations médiation culturelle. Et justement, là, une des responsables du master qui était auparavant à l'UDA, non pardon, à l'UBP, parce que vous savez, il y a deux médiations culturelles à Clermont-Ferrand, il y en a une de chaque côté des universités qui ont fusionné, bref, passons les détails amusants. Elle m'a dit qu'ils étaient en train de construire la nouvelle maquette et qu'ils incluaient une option très orientée auprès des publics empêchés, parce qu'en fait ils cherchent à créer des spécificités dans leur master de sorte que ça attire les étudiants d'un peu partout en France, et dès lors qu'on a une option un peu originale par rapport à ce que proposent les autres, et bien du coup on va devenir attractif. C'est peut-être une carte à jouer dans les années à venir de sensibiliser les responsables de formation à ce qu'ils incluent ça pour qu'ils attirent leurs étudiants.
Ils vont se confronter à une problématique sur le terrain, c'est qu'on demande aux médiateurs d'être polyvalents pour pouvoir assumer tous les publics.
Ce serait une option, quoi.
Et ne pas avoir un médiateur qui fait 20% de temps de travail sur un public spécifique et qu'on ne puisse pas lui donner plus à faire.
Ouais, c'est intéressant, ça.
Il y a un problème de
type
de poste.
Donc,
mais dans le cadre de la formation, si vous voulez, il y a des choses très très sympas, parce que quand vous apprenez à, donc on rappelle de la licence des guides, donc de prendre la responsabilité, vous formez des guides à parler dans le public ordinaire, bien évidemment. Et si vous les mettez dans la condition d'un public déficient visuel, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin, de décrire, de faire appel à un tas d'éléments sensoriels qui vont leur servir après dans leur visite ordinaire. Donc le plus que le moins. Et ça, c'était hyper intéressant et ça n'enlevait rien. Au contraire, ça a ajouté une belle valeur ajoutée.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette discussion. Il est quasiment 7h. Je vous propose de rejoindre la salle 109 pour partager un petit verre et puis continuer ces discussions. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les étudiants là qui proposent des cartes tactiles. Je vous invite à les essayer, à leur faire des retours. Ils sont très intéressés à savoir ce que vous en pensez en général.
Merci.